Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que c'est toujours un privilège et une grâce pour nous d'être dans ta présence et en particulier d'être celui par qui tu veux passer pour bénir ton peuple. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as devancés ici. Et merci pour ce que tu veux accomplir dans la vie de chacun de nous, en commençant par la mienne. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous ne voulons pas juste écouter des paroles intéressantes, mais nous voulons sortir d'ici comme de nouvelles personnes. Nous voulons faire des pas en avant dans notre marche avec toi. Nous voulons, Seigneur, connaître, avoir une nouvelle expérience avec toi. C'est pour toi que nous sommes venus. Ce n'est pas pour un homme. Viens à la rencontre de chacun de nous, en commençant par moi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. C'est encore un honneur pour moi d'être debout devant vous pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il m'accorde. Je dis merci à l'équipe dirigeante du ministère de la Jeunesse de notre paroisse pour l'occasion qui m'est faite d'introduire cette série et de la continuer aujourd'hui avec un deuxième sous-thème. Notre thème général d'abord, qui est vice et vertu, et notre sous-thème d'aujourd'hui qui est intitulé « La prison de la paresse et les bénéfices de la diligence ». Alors nous allons commencer notre partage avec la lecture de la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez l'ouvrir dans Proverbes chapitre 10. Nous allons lire Proverbes chapitre 10, le verset 4. Ensuite, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 27. Proverbes chapitre 10, verset 4, la Bible dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, je lis à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il est écrit ceci « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Parole du Seigneur. Donc je disais que le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « La prison de la paresse et les bénéfices de la diligence ». C'est quoi la paresse? Quand est-ce qu'on parle de paresse? Quand est-ce qu'on dit d'un homme qu'il est paresseux? Eh bien, la paresse est définie tout simplement comme le comportement d'une personne qui n'a pas envie, qui ne veut pas dépenser de l'énergie pour une tâche qui est nécessaire. Et si l'on définit la paresse de cette manière, vous comprendrez avec moi que la paresse est un choix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est un choix délibéré. Celui qui est paresseux choisit de ne pas fournir d'efforts. Il choisit de ne pas travailler. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce qu'il n'en a pas envie, tout simplement. Alors, certaines personnes disent aussi que la paresse, c'est un goût prononcé qu'on a pour l'oisiveté ou pour le repos. Voyez? Il y a des gens qui aiment trop le repos. Il y en a même qui se réveillent avec l'objectif de se reposer. Vous voyez? C'est ça la paresse. Oui. On aime le repos, on aime la détente, on aime l'oisiveté, on aime ne rien faire. C'est ça la paresse. On aime le divertissement plus que l'activité, plus que le travail. Alors, c'est un problème pourquoi? Dans notre série ici, je pense que la paresse peut être considérée comme un vice, parce que la série est intitulée « Vice et vertu ». Nous parlons ici de la paresse comme étant un vice. Et nous parlons de la diligence comme étant une vertu. Vous vous souvenez, le dimanche passé, nous avons parlé de quel vice? Oui? Nous avons parlé de l'ivresse comme étant un vice et que la sobriété est une vertu. Alors aujourd'hui, nous parlons de la paresse comme étant un vice et de la diligence comme étant une vertu. Alors le problème avec la paresse, c'est que la paresse repose sur un mensonge. En fait, celui qui est paresseux est convaincu que la détente, le repos, la relaxation, le divertissement va lui procurer plus de satisfaction que l'activité, que l'effort. C'est ça le mensonge qu'il y a derrière la paresse. Et ce mensonge, beaucoup d'entre nous, à un moment donné de notre vie, nous sommes tombés sous le coup de ce mensonge. Et beaucoup peut-être ici continuent à marcher avec ce mensonge. Et l'une des manières dont la paresse se manifeste, c'est par la tendance à reporter toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Voyez? Si c'est la tendance que vous avez, sachez que vous avez déjà des symptômes de la paresse. Ce que vous aurez pu faire aujourd'hui, vous pensez que demain, c'est toujours le bon moment. Voyez? Et c'est un problème aussi parce que c'est un péché. La paresse est un péché dont nous devons nous repentir. Oui, c'est un péché. Parce que Dieu n'est pas paresseux. Dieu nous appelle à lui ressembler. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devenons et qui ne correspond pas à l'image que Dieu a de nous, c'est en fait une façon pour nous de rater le but. Et c'est ça justement le péché. Le péché, c'est aussi le fait de rater ce que Dieu nous a destiné à être. Voyez? C'est aussi ça. Et peut-être que vous ne le savez pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez commencer aujourd'hui à vous repentir de la paresse. Ce n'est pas seulement un péché, mais c'est la source de plusieurs péchés. Voyez? Parce que lorsqu'on est paresseux, on s'expose, on se prédispose à d'autres péchés. Souvenez-vous de l'histoire de David, 2 Samuel chapitre 11. Si vous lisez l'histoire de David dans 2 Samuel chapitre 11, c'est l'histoire où David est tombé dans l'adultère avec la femme d'un de ses officiers, Uri. David envoie ses généraux, ses officiers en guerre. Lui-même guerrier, lui-même le chef de l'armée d'Israël. Il décide de rester, à ne rien faire. Et il envoie ses officiers en guerre. Et la Bible dit que le soir, il se promenait. Il était oisif. C'est en se promenant qu'il a remarqué cette femme. Et vous connaissez la suite. Il a envoyé chercher la femme et il l'a prise pour lui comme femme. Il n'a pas seulement commis l'adultère, mais il a encore commis un autre péché pour couvrir l'adultère. Il a commis un meurtre. Oui. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des situations comme celle-là. Ils se retrouvent dans l'impudicité, ils se retrouvent dans des addictions, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont octroyés beaucoup de temps de détente. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, non. Alléluia. Je suis sûr que si vous êtes ici, vous avez un problème d'addiction, vous serez d'accord avec moi que cela vous arrive lorsque vous êtes oisif. Vous ne pouvez pas tomber dans l'addiction si vous êtes occupé. C'est difficile. Il faut que quelque part que vous deveniez oisif. Et là, vous vous retrouvez enchaîné dans les chaînes, soit de l'addiction à la drogue, ou à la nourriture, ou au sexe, ou au film, tout ce que vous voulez. Alors, la paresse est aussi un problème parce que la paresse vient avec beaucoup de conséquences dans notre vie. Et l'une des conséquences de la paresse, je le dis souvent à mes étudiants, si vous restez sans travailler, ce que vous avez comme capacité, comme compétence, va se détériorer avec le temps. Parce que les connaissances ou les compétences aussi expirent, ça varie. Ça devient obsolète. Faites un exercice. Si vous êtes aux études, vous avez l'habitude de travailler, d'écrire ou de lire, ainsi de suite. Essayez de faire 3-6 mois sans écrire.
Le jour où vous allez oser tenir un stylo pour écrire, vous allez sentir votre main lourde, n'est-ce pas? Vous aurez perdu votre agilité, votre habileté. C'est un petit exemple, mais que vous pouvez transposer sur d'autres domaines de la vie. Vous avez accumulé une compétence, vous sortez d'une formation, restez longtemps sans utiliser la formation que vous avez reçue, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez oublier, vous allez perdre les réflexes que vous avez acquis pendant la formation, même si c'était une formation de qualité. La paresse entraîne l'obsolescence des compétences. Ça, c'est un problème. Et deuxième conséquence, une autre conséquence de la paresse, c'est que la paresse va vous rendre jaloux. La paresse vous rendra jaloux. Parce que vous allez constater que pendant vos moments d'oisiveté, les autres manifestent des apparences de réussite. Pendant que vous, vous êtes oisif. Et vous allez commencer à penser que vous aurez du mal à vous réjouir de leur succès ou de leur réussite. Tout simplement parce que au moment où les autres travaillaient, vous, vous vous reposiez. Alléluia. Certains d'entre nous sont jaloux tout simplement parce qu'ils sont paresseux. Ça n'a rien à voir avec la réussite de l'autre. Ah, lui, il touche des grilles. Rien à voir. Rien à voir. Vous êtes tout simplement paresseux. Vous commencez à avoir du mal à apprécier les efforts des autres. Alors, la paresse est aussi un problème parce que lorsqu'on est paresseux, on devient un poids pour les autres. Vous voyez? Vous devenez un poids pour les autres. Et vous pouvez penser qu'on ne vous aime pas. Non, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Vous pesez trop. Vous voyez? Oui, vous pesez trop. Personne n'a envie. Remarquez. Lorsque vous rencontrez un mendiant, combien d'entre nous sont contents lorsqu'ils rencontrent un mendiant? Quel est le sentiment que vous avez lorsque vous rencontrez un mendiant? Vous n'avez pas envie de vous approcher de lui, naturellement. Naturellement, on a tendance à s'éloigner de quelqu'un qui veut constituer pour soi un fardeau. C'est ça le problème avec la paresse. Lorsque vous devenez paresseux, les gens vont commencer à vous éviter. Et vous allez commencer à dire qu'on ne m'aime pas. Non, vous ne travaillez pas. Vous n'avez rien à apporter. Alléluia. Bon, la diligence, c'est quoi? Bon, la diligence, c'est l'opposé. Quelqu'un qui est diligent, c'est quelqu'un qui manifeste de l'empressement pour l'exécution d'une tâche. Alléluia. Oui. C'est ça quelqu'un de diligent. Quelqu'un qui est diligent est prompt à agir, prompt à exécuter une tâche. Il n'est pas seulement prompt à agir, mais il le fait avec soin. Il le fait avec constance. Il le fait avec régularité. Alléluia. C'est ça quelqu'un de diligent. Et je suis sûr que vous connaissez au moins quelqu'un de diligent autour de vous ou dans cette église. Alors, je vais essayer de m'attarder un peu pour nous montrer comment la paresse s'oppose à la diligence. Et je prie que le Seigneur puisse parler à quelqu'un. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de paresse, parfois, en fait, personne n'aime admettre qu'il est paresseux. Vous voyez? Oui. Si je dis ici, qui sont paresseux, levez la main, je vais prier pour vous. Je suis sûr que je n'aurai pas les mains levées. Personne n'aime apparaître comme quelqu'un qui est paresseux. Mais la parole de Dieu peut nous montrer à quel moment de notre vie nous tombons dans ce péché de la paresse. Et bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur vous montre quelque chose qui ne va pas dans votre vie, le Seigneur ne le fait pas parce qu'il veut se moquer de vous. Non, le Seigneur le fait parce qu'il veut vous relever, il veut vous sortir de là où vous êtes. Parfois, il y a des situations dans lesquelles nous ne sortons pas parce que nous ne sommes pas suffisamment mal à l'aise. Parfois, Dieu peut te mettre mal à l'aise parce qu'il veut te sortir de cette situation. Alléluia. Alléluia. Oui, je vois des airs tristes ici. Mais supportez-moi pour un moment. Alléluia. C'est pour notre bien. Alors, il y a une première différence que j'ai relevée. La liste n'est pas exhaustive parce que le temps qui nous est donné aussi n'est pas infini. Mais je vais relever quelques différences entre un homme paresseux et un homme diligent. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 4 que nous avons lu, dans la version française courante, il est écrit ceci. Des mains nonchalantes. Nonchalantes, c'est un synonyme de paresseux. Ce n'est pas tellement la même chose, mais ce sont des, je dirais que ce sont des paronymes. Voilà, pour ceux qui ont fait un peu de français, comprennent ce que ça veut dire. C'est presque des synonymes, ça va? Oui, parce que quelqu'un qui est nonchalant, ce n'est pas quelqu'un qui n'agit pas. Non, il agit, mais il agit sans énergie. Vous voyez? Voilà. Il agit comme s'il est embêté. Oui, il n'est pas pressé. Oui, une tâche d'une minute, il va prendre 30 minutes pour le faire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui traîne les pas. La Bible dit que des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Dans certains passages, on parle de paresse. Des mains actives, par contre, procurent la richesse. Alléluia. Alors, la première différence entre le paresseux et le diligent, c'est que le paresseux aime sa zone de confort. Il aime sa zone de confort. Il aime ça. Il aime rester là où il est confortable. Lorsque nous parlons de zone de confort, certains parmi vous ne semblent pas comprendre de quoi il s'agit. Bien-aimés, si vous êtes dans un groupe, quel qu'il soit, groupe de prédicateurs, groupe d'instrumentistes, groupe d'étudiants, ainsi de suite. Si dans le groupe dans lequel vous êtes, c'est vous le meilleur des autres, vous êtes dans votre zone de confort. Je ne sais pas si vous me suivez. Si dans le groupe dans lequel vous êtes, c'est vous le meilleur, c'est toujours vous le meilleur. Quand il faut faire quelque chose, c'est toujours vous. Vous êtes dans votre zone de confort. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes inactif. Vous êtes actif, mais vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. Et dans votre zone de confort, vous ne pouvez pas grandir. Parce que vous n'avez pas de défis. Ce sont les autres qui sont défiés par vous. Alléluia. Dans votre zone de confort, vous n'allez pas grandir. Et le problème avec le paresseux, c'est quoi? C'est qu'il aime ça. Il aime rester là. Il n'aime pas les défis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut opérer des miracles dans nos vies. Mais croyez-moi, dans votre zone de confort, aucun miracle ne va se produire. Aucun. Oui, Dieu est omniprésent, mais sa bénédiction n'est pas omniprésente. Oui, dans votre zone de confort, aucun miracle ne va se produire. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre a marché sur les eaux à l'invitation de Jésus, ils étaient tous des disciples dans la barque. À un moment donné, il voit Jésus venir. Pierre dit, si c'est toi, maître, permets que je vienne. Pierre a marché sur les eaux, oui ou non? Il n'y a que Pierre qui a marché sur les eaux. Tous ceux qui voulaient rester dans la barque n'ont jamais expérimenté ce miracle. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait que Pierre qui pouvait marcher sur les eaux. Non, c'était donné à n'importe qui. Il suffisait de quitter la barque à l'invitation du Seigneur. Alléluia. Tant que vous allez rester dans votre zone de confort, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de remarquer s'il est toujours diligent ou paresseux. Alors, quitter sa zone de confort signifie qu'il faut, quelque part, ne pas trop aimer le confort. Ça signifie qu'il faut se mettre en action. Mais se mettre en action, ça ne se confond pas à être en mouvement. Quand je dis se mettre en action, je ne suis pas en train de dire ici se mettre en mouvement. Il y a des gens qui sont en mouvement, mais qui ne sont pas en action. (Rire) Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans un groupe. Vous pouvez vous retrouver dans un groupe. Vous êtes tous groupe de travail, étudiants, vous étudiez ensemble, ainsi de suite. Quand il faut faire un TP, vous faites le TP. Ah non, on est en train de faire le TP. Mais dans le groupe, vous êtes tous dans une même salle. Vous pensez que vous êtes tous ensemble. Mais ensemble, là, il y en a qui portent beaucoup plus la tâche à cœur, qui savent ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais il y en a qui sont là, ils suivent le mouvement du groupe. Ils attendent, ils se disent, bon, quand on va clôturer, ils regardent même, ils se disent, oh, quand est-ce qu'on va finir? Lui, il attend la fin. Oui. Et il y a des gens comme ça. Vous pouvez vous retrouver, vous êtes dans le même ministère, vous exercez le même ministère, vous pensez que non, hein, c'est bon, on est en train de danser. On peut être ici, on est en train de danser. Certains sont en train de louer Dieu, mais d'autres sont seulement en train de suivre le rythme. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est pas la même chose. Être en action et être en mouvement, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand je parle de quitter sa zone de confort, je parle de se mettre en action. Il ne s'agit pas simplement de se mettre en mouvement. Alléluia. Le paresseux et le diligent. La deuxième différence entre les deux, c'est que le paresseux a tendance à attendre les opportunités. Il attend les opportunités pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir travailler, pour pouvoir réussir. Voyez, vous allez le rencontrer, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu... Ah bon, j'attends mon temps, j'attends ma saison, j'attends... Voyez, il attend. Il attend le bon moment pour commencer à travailler. Mais le diligent, lui, avec ou sans opportunité, il est en action. Alléluia. Et l'une des caractéristiques du diligent, c'est que même lorsqu'il n'a pas d'opportunité, il développe ses compétences, son habileté. Il se prépare à l'opportunité. Alléluia. Mes chers amis, les opportunités, on s'y prépare. C'est ça être diligent. Être proactif. Alléluia. Et si vous êtes là, vous avez fini vos études, vous n'avez pas de travail, vous attendez l'opportunité de travailler, vous risquez de rester longtemps au chômage. Et je vous ai dit, rester longtemps sans activité, vos compétences vont s'effriter petit à petit. Et vous risquez d'avoir des CV, vous avez un CV pendant 5 ans, on ne voit rien. Vous avez terminé les études en 2022 et puis la première activité on voit c'est 2027. Bon, entre 2022 et 2027, vous faisiez quoi? Ça c'est un problème, bien-aimé. C'est un problème. C'est pourquoi je dis souvent à mes étudiants, vous n'avez pas besoin d'un emploi pour travailler. Je répète, vous n'avez pas besoin d'un emploi pour commencer à travailler. Alléluia. L'emploi n'est qu'un endroit où vous pouvez exercer votre travail, pratiquer votre travail. Mais même sans emploi, vous pouvez travailler. Travailler, même gratuitement, travailler. Alléluia. Alléluia. Le paresseux attend l'opportunité, mais le diligent se prépare à l'opportunité. Il développe ses compétences, il développe son habileté. Il présente ce qu'il sait faire. La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 29, « Regarde l'homme qui fait bien son métier, il pourra offrir ses services au roi eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. » Alléluia. Celui qui est habile à son métier, il vendra ses services au roi. Alléluia. Développez vos compétences, votre habileté, et vous allez réussir. Alléluia. Une autre différence entre le paresseux et le diligent, c'est que le paresseux, il nourrit des rêves. Il a des rêves, des désirs. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 4, « Le paresseux éprouve des désirs, mais il n'arrive à rien. » Le problème du paresseux, ce n'est pas toujours qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Malheureusement, il n'arrive à rien. Parce que tout ce qu'il a, ce sont des désirs. Mais le diligent, lui, il n'a pas seulement des désirs, il a des projets. Il y a une différence entre un rêve et un projet. Ah, moi, j'aimerais être homme d'affaires. Oui. On est en 2022. Au mois de janvier, c'est la prière que tu avais faite lors de la veillée de... cette année, je veux devenir un entrepreneur. Je veux commencer ma propre entreprise. 2022, maintenant nous sommes au mois d'octobre. Vous avez toujours le même rêve, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez un rêve. C'est un désir, c'est légitime, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que c'est toujours un rêve. C'est toujours un rêve. Oui. Mais ça n'est jamais devenu un projet. Alors, c'est quoi la différence? Bien-aimé, un projet a eu des échéances. Alléluia. Un projet a des échéances. Mais un rêve, c'est un rêve. Un projet a des échéances. Dans un projet, on voit ce que vous voulez, là où vous voulez atteindre, le but que vous voulez atteindre. Très bien. Mais dans un projet, vous répondez à la question de quand. Quand? Vous définissez qu'est-ce que vous allez faire pour devenir l'entrepreneur que vous voulez devenir. Vous devez définir les tâches que vous devez exécuter. Vous voyez? Dans un projet, les tâches doivent être définies. Le temps doit être défini. Ça va vous coûter combien? Oui, vous allez le faire avec qui? Où? Voilà. Et il y a parfois des gens qui sont embêtés lorsqu'on commence à leur poser des questions de ce genre. Ah, j'aimerais l'année prochaine, j'aimerais aller étudier au Kenya. Ok. Tu veux aller quand? Bon. Il n'a pas une échéance. Bon, ok. Avant d'y arriver, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir... Ah bon, je prie. Ça... Bon, est-ce que tu sais combien ça coûte d'aller étudier au Kenya? Bon, vous n'avez aucune information sur votre rêve. Ça ne se réalisera jamais. Jamais. Vous allez rester dans les rêves. Je me souviens, lorsque j'avais promis le mariage à celle qui est devenue mon épouse, j'ai eu une conversation avec sa mère. La première conversation que j'ai eue avec sa mère, ses questions étaient précises. Oui. Elle dit, ok, mon fils, tu veux l'épouser quand? Oui. Et parfois, les jeunes gens sont embêtés. Ah, docteur Abel, ça c'est ma fiancée. Ah, ok, vous allez vous marier quand? Ah, il est surpris. Mais ça, ce n'est pas un projet, ça. Ça, ce n'est pas un projet. Vous perdez votre temps et vous perdez son temps. Oui. Vous devez avoir un calendrier, un chronogramme. Sans ça, vous êtes en train de parler des choses en l'air. Alléluia. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que si votre rêve n'a pas d'échéance, vous ne saurez jamais l'évaluer. Jamais. Vous ne saurez même pas si Dieu vous a exaucé ou pas. Oui. Dis, Seigneur, je veux me marier. Oui, je vais te marier. Tu vas te marier. Même après 40 ans, tu vas toujours te marier. Où est le problème? Mais si vous avez une échéance, vous saurez. « Seigneur, dans 2 ans, j'aimerais me marier. » Si après 2 ans, vous ne vous êtes pas marié, au moins vous savez que Dieu ne vous a pas exaucé. Oui. Oui. Et par conséquent, Par conséquent, vous allez réévaluer votre prière. Alléluia. Et vous allez grandir, même dans votre marche avec Dieu, vous allez commencer à demander maintenant, pourquoi Dieu, tu ne m'as pas exaucé au bout de 2 ans? Voilà. Vous vous donnez une bonne base pour grandir. Mais vous avez des rêves sans échéance. Non. Il ne faut pas être mal à l'aise quand on vous voit avec une jeune fille ou avec un jeune homme. Quand est-ce que vous allez vous marier? Ah, ils aiment toujours savoir les projets des gens. Non, 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 non. Ayez l'humilité, n'est-ce pas, de reconnaître que vous n'avez pas encore une échéance. Et travaillez-y. Fixez une échéance. Alléluia. Voilà. Dans ma famille, il y a des gens comme ça. Ah, quelqu'un m'a appelé. Ah, Abel, je vais me marier, tout ça, ainsi de suite. Tu veux te marier quand? Ah, mais comment tu me demandes? Quand est-ce que je veux me marier? Je n'ai encore rien. Mais maintenant, tu n'as rien. Pourquoi tu parles de mariage? Tu ne sais même pas quand est-ce que tu veux. Bon, ok, on va parler de ça après. On parle d'autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Un projet doit répondre à la question. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Oui. J'ai eu des problèmes avec un jeune homme dans une église que je fréquentais avant. Il dit non, il voulait être responsable d'un ministère. Il dit voilà, et nous on devait valider. Hein? Et parmi les éléments de validation, il y avait son témoignage. Alors on lui pose la question, bon, tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Bon. Tu es célibataire? Bon. J'ai ma petite amie. Ok. C'est ta petite amie, oui. Tu veux l'épouser? Oh non, pourquoi vous parlez de mariage? Maintenant, il est petite amie, pourquoi? Quel est le but de cette relation? Petite amie n'est pas un but. En tout cas, ça n'est pas dans la Bible. Hein? Ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, quand un homme s'approche d'une jeune fille, le but, c'est le mariage. Oui, si celui à côté de qui vous êtes, le but ce n'est pas le mariage, arrêtez. Arrêtez. Oui, ce sont des choses. Oh, je vois d'abord. Non, non. Non. Ma sœur, quelqu'un t'approche. Il doit te dire pourquoi il s'approche de toi. Alléluia. Il doit te dire. Oh, je m'approche, je vais d'abord voir. Ne t'approche pas de quelqu'un si tu ne sais encore, tu ne sais même pas quel est le but de la relation. Pourquoi tu t'es approché de la personne? Il ne faut pas perdre le temps des gens. Alléluia. Un projet doit avoir un but. Il doit avoir une échéance. Vous devez savoir quelles sont les tâches assorties. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous marier? Ou pour étudier? Ou pour travailler? Vous allez faire comment? Alléluia. La Bible dit, Proverbes chapitre 21, verset 5, « Les projets, pas les rêves, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Alléluia. Alléluia. Une autre différence, je vais aller vite, entre le paresseux et le diligent, c'est que le paresseux attend d'être motivé pour agir. Oui, il attend la motivation. Pourquoi tu n'agis pas? Non, non. Il n'est pas encore motivé. Oui. Le diligent, lui, il se discipline. Alléluia. Bien-aimé, vous n'aurez pas la... Même les motivational speakers que vous suivez, ils ne sont pas motivés tous les jours. Non. Ils ne sont pas motivés tous les jours. Il y a des moments où on est motivé, il y a des moments où le moral est très bas. Mais ce qui vous garde, c'est la discipline. Alléluia. Le diligent se discipline. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous serez inconstant. Vous êtes inconstant et vous n'allez pas produire des résultats. Celui qui est diligent est maître de ses émotions. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement la maîtrise devant le sexe, c'est aussi la maîtrise devant l'oisiveté. Vous n'avez pas envie de travailler, mais vous dites à votre corps, « Lève-toi, travaille !» Alléluia. Le paresseux. Le paresseux, enfin, il minimise les petits commencements, les faibles commencements. Il attend les grandes réalisations. Il attend que les choses deviennent parfaites. Je vais commencer mon entreprise. Il me faut 10 000 dollars. Il a 100 dollars, il va faire la fête. Il a 50 dollars, il va manger au restaurant. Oui. Il attend quand il aura 10 000 dollars. Là, il sait qu'il peut maintenant démarrer une entreprise. Même si vous les avez, vous allez échouer. Vous allez échouer. Le diligent, il valorise, il apprécie. Il sait que ce sont les petits efforts de tous les jours qui font les grands résultats. Alléluia. Ne négligez pas les faibles commencements. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4, verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le. Tout, tout. Même ce qui ne correspond pas à ton profil, fais-le. Même si ce n'est pas le domaine dans lequel tu as eu ton diplôme, fais-le. Même si ça ne correspond pas au niveau de ta famille, fais-le. Même si ça ne correspond pas à ce que les gens disent que tu es, fais-le. Fais-le. Même si c'est petit, fais-le. Alléluia. Dieu ne va pas bénir ce que tu méprises. Alléluia. Dieu ne va pas bénir ce que tu minimises. Le peu que tu as, c'est ça que Dieu va bénir. Tu commences peu et en agissant petit à petit, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous, et c'est là que je vais terminer. La volonté de Dieu pour nous a été exprimée dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, je connais pas les rêves. Non. Dieu dit, je connais quoi? Les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a pour vous des projets, pas des choses irréalisables. Dieu a formé pour vous des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Même Dieu, quand il agit, quand il doit agir, il forme des projets. Alléluia. Et vous êtes un projet de Dieu. Alléluia. Vous êtes un projet de Dieu. Je suis un projet de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te lèves, que tu quittes ta zone de confort, que tu arrêtes d'aimer l'oisiveté, d'aimer le repos et de te mettre en action. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu dises un mot au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Je ne sais pas ce qui est monté dans ton cœur pendant ce message. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est une action de grâce, si c'est des paroles de repentance, si c'est un engagement que tu as pris. Peu importe, dis quelque chose au Seigneur. Il est là, au milieu de nous. Même s'il connaît ce qu'il y a au fond de ton cœur, mais il veut l'écouter avec ta bouche, avec la voix qu'il t'a donnée. Parlons au Seigneur pendant quelques secondes. Alléluia. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Tu n'es pas seulement au milieu de nous, mais tu es avec nous. Nous sommes embarqués avec toi. Nous sommes ton projet. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ton amour envers nous. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour tes plans, tes projets que tu as pour nous. Tu ne veux pas que nous soyons un peuple de paresseux. Tu veux que nous soyons un peuple de diligents, d'hommes et de femmes proactifs, d'hommes et de femmes engagés, dans l'action avec toi. L'action non pas seulement pour des choses périssables, mais aussi pour les choses et surtout pour des choses qui demeurent. Aide-nous, Seigneur, à marcher, à courir, à nous battre, non pas comme à l'aventure, non pas de manière nonchalante, mais d'être actif, actif dans les choses de ce monde, mais surtout actif dans les choses du royaume à venir, là où tu nous attends, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire un pas de plus avec toi aujourd'hui. Bénis ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.